18h30 à Paris, c'est l'heure du débat avec vous, François Ballarin. Bonsoir.
Bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Le débat du jour et les plus grosses économies du monde réunies au Brésil, à Rio de Janeiro, depuis ce lundi, un sommet du G20 dont l'un des sujets centraux est le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, un projet dont la genèse remonte à 1995 et qui, près de 30 ans plus tard, n'a toujours pas été ratifié. Et c'est notamment contre cet accord que les agriculteurs français, mais aussi européens, se mobilisent depuis quelques jours. Mercosur, un accord est-il inévitable ? C'est le débat du jour sur RFI. Et avec nous en studio ce soir, Charlotte Emlinger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales à Paris. Vous êtes notamment spécialiste du commerce agricole. Bonsoir Thomas Utaya Kumar.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et puis avec nous par téléphone, Jean-Baptiste Gibert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur bio dans le Tarn-et-Garonne, secrétaire général du syndicat des jeunes agriculteurs en Occitanie. On peut commencer par un premier tour de table. Je me tourne vers vous, Thomas Utaya Kumar. Une question, tout simplement, cet accord UE-Mercosur, vous êtes pour ou contre? Et en quelques mots, pourquoi?
Bon, le Mercosur, aujourd'hui, c'est un accord de libre-échange qui cristallise beaucoup de tensions. On parle de dizaines de milliers de tonnes qui arriveraient chez nous et qui concurrenceraient de façon déloyale les productions européennes et donc françaises. Donc on est un peu dans un moment de cristallisation et c'est pour ça que la crise agricole remonte. Si aujourd'hui j'ai répondu aussi à votre invitation, c'est pour parler aussi de la crise agricole. Le Mercosur, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On parle beaucoup du Mercosur, mais derrière ça, on a des revendications aujourd'hui agricoles. Il faut en discuter. Celles-ci sont un peu éludées, notamment la rémunération, les enjeux de simplification des normes aussi environnementales. Les agriculteurs, à force de mettre de côté justement les ambitions environnementales et de préservation de la biodiversité, vont casser leurs facteurs de production. Et avec près de 60% des terres européennes, donc des sols qui sont en mauvais état, c'est une très mauvaise idée pour la résilience européenne et française de notre monde agricole.
Jean-Baptiste Gibert, votre point de vue sur ce possible accord UE-Mercosur, ce serait une mauvaise nouvelle selon vous ?
Ben, je pense que ce serait certainement une mauvaise nouvelle. Et puis, c'est surtout un accord qui est complètement désuet et qui ne correspond plus au temps dans lequel on vit maintenant. De toute façon, c'est toujours pareil. Et je rejoins la personne qui a parlé juste avant. C'est compliqué de faire rentrer des productions qui ne correspondent plus du tout à ce que le consommateur va acheter et puis qui rentre en concurrence totale avec nous et ça viendra impacter le revenu des agriculteurs qui s'échinent à travailler de manière beaucoup plus vertueuse qu'il y a 25 ans et donc c'est en ce sens que c'est incompréhensible, on va échanger des voitures contre de la nourriture malsaine qui va rendre malade, je pense, beaucoup de personnes.
Et Charlotte Emlinger, votre point de vue sur cet accord, il ne convient pas dans la forme actuelle?
Alors, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, comme tous les accords commerciaux, ont des gagnants et des perdants. Donc, c'est une histoire d'arbitrage politique. Donc, les gagnants sont identifiés. Hein. Il y a des secteurs, en particulier industriels, qui ont beaucoup à gagner, parce que le Mercosur est un très gros marché, très protégé. Donc, beaucoup d'industries européennes sont gagnantes dans le Mercosur. Également certains secteurs agricoles, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire
et
le
on
vin.
Va en parler.
Voilà, le vin, le fromage, c'est aussi
le
des
lait.
Grands gagnants. Exactement. Par contre, effectivement, il y a des perdants qui sont également très clairs, très, très bien identifiés. C'est le secteur, effectivement, de la viande bovine, des volailles. Et il y a effectivement ce problème de concurrence déloyale liée à différentes différences de standards, en particulier sur les questions environnementales.
Concurrence déloyale, le mot est lâché. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Gibert? Pour vous, cet accord UE-Mercosur, c'est une concurrence déloyale vis-à-vis des éleveurs?
Ah, mais c'est complètement une concurrence déloyale. Hein, parce que pour exemple, ça s'est un peu cristallisé autour de la viande bovine. Mais faut savoir qu'au Brésil, il y a énormément de substances qui sont autorisées, qui sont interdites depuis 20-30 ans en France. Hein. Je pense à l'atrazine notamment, qui a fait débat pendant très longtemps et qui est interdite depuis longtemps. Les hormones de croissance, des régulateurs, des herbicides, des insecticides. Enfin, il y en a. C'est pléthorique le nombre de substances autorisées au Brésil et qui ne le sont pas en France. On parlait de la viande bovine, mais il y a aussi le sucre va être très largement impacté avec 180 000 tonnes à droit nul. Donc, à un moment donné, il y a la filière miel. Le miel, 45 000 tonnes d'importation de miel. La consommation en France est à 40 000 tonnes. Il y a 3 ans, on a eu, et c'est très bien, sorti un plan abeille pour relancer la production de miel en France qui a chuté drastiquement à cause aussi du frelon asiatique qui a fait des dégâts. Et là, avec cet accord-là, on va importer autant que la consommation française. Donc, on abandonne l'idée de produire du miel en France. En fait, c'est ça qui nous est remonté aux oreilles. C'est aberrant. C'est n'importe quoi.
Et c'est ce qui explique peut-être que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui se range du côté des agriculteurs contre le texte et l'accord UE-Mercosur tel qu'il est aujourd'hui.
Oui, et et je pense que c'est normal. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un accord qui est désuet. À la fin des années 90, pourquoi pas, ça pouvait, on était en pleine mondialisation, c'était cohérent et dans l'air du temps. Et après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, je c'est pas moi qui vais vous le dire aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, c'est plus possible. On parle de déforestation importée. En fait, quand on voit les productions, comment le soja est produit, en fait, c'est un des premiers enjeux quand même pour préserver la forêt. La forêt amazonienne, qui est le poumon du monde, il ne faut pas l'oublier.
Thomas Outaya Kumar, en quelques mots, vous partagez ce constat, il est complètement désuet cet accord UE-Mercosur?
Cet accord, il est désuet parce qu'effectivement, le mettre en place, donc le ratifier, ça engendrerait davantage de déforestation importée, comme ça a été dit. Il y a une commission d'experts qui avait été mandatée justement pour comprendre les effets et les conséquences de cet accord et donc des milliers de tonnes, par exemple, de viande importée, et ça pourrait générer entre 5 à 25% de déforestation supplémentaire. Donc là-dessus, effectivement, on est sur un problème significatif. Après, encore une fois, il faut remettre les ordres de grandeur un peu sur la table. Le Mercosur, lorsqu'on parle de 99 000 de tonnes équivalent carcasse de viande bovine, elle s'ajoute déjà aux 200 000 potentiels, ou pas, mais on a déjà 200 000 tonnes en fait, qui sont exportées du Mercosur vers l'Union européenne. Et finalement, ça représente que quelques pourcentages en fait, de la production de viande bovine européenne.
Il paraît que c'est un steak par personne et par an en Union européenne.
Ça pourrait être un steak de viande par personne et par an, mais en tout cas, ça générerait de la déforestation. Donc ça, c'est une première lecture environnementale. La deuxième lecture à avoir, c'est si ce n'est pas beaucoup de pourcentage, est-ce qu'il n'y a pas des segments plus précis qui pourraient mettre à mal le marché? Et typiquement, si on prend l'accord du Mercosur et qu'on le cumule avec les anciens accords de libre-échange, sur le domaine des pièces à forte valeur ajoutée, notamment la loyaux, c'est ce qu'on appelle le faux filet, la bavette, etc., ça représenterait quand même un tiers à 40% de la loyaux qui viendrait concurrencer de façon déloyale la loyaux européenne. Donc là-dessus, les débats sur les ordres de grandeur, on voit que ça fuse un peu dans tous les sens en disant « bon, c'est pas grand-chose finalement le Mercosur » et d'autres qui disent « bah si, c'est beaucoup, notamment sur certains segments ». Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le Mercosur, c'est un problème sur les enjeux qu'on appelle mesures miroirs. Les mesures miroirs, c'est quoi? C'est si on les met en place, c'est d'arrêter d'importer des aliments qui ont été produits avec des pesticides interdits dans l'Union européenne.
Ce qui paraît très logique.
Ce qui paraît très logique, parce qu'on en demande toujours plus aux agriculteurs, notamment d'aller vers de l'agroécologie, d'aller vers de l'agriculture biologique. Les agriculteurs ne pourront pas y aller si cette concurrence est déloyale. Donc, si on veut accompagner les agriculteurs dans cette direction, si on veut les rémunérer plus dignement avec une répartition de la valeur beaucoup plus équitable, et à la FNH, on a fait des travaux là-dessus, les mesures miroirs peuvent nous permettre d'aller vers cet objectif. Mais attention, le Mercosur ne doit pas être un totem dans lequel c'est le statu quo. On ne fait rien au niveau de la culture européenne et française, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les compartiments environnementaux sont dans un très mauvais état, et c'est se saborder que de ne pas aller vers cette agroécologie.
Alors, ces clauses miroirs, justement, ça pose la question notamment de la traçabilité des viandes, notamment des viandes, hein, mais d'autres produits aussi. Mais on va prendre l'exemple des viandes. Charlotte Emlinger, de la naissance à l'abattage, les pays du Mercosur ont-ils une bonne traçabilité? Est-ce que c'est possible de savoir, de la naissance jusqu'à l'abattage, d'où vient une viande?
Alors avant de répondre à cette question, je voudrais juste préciser quelque chose, parce que il y a des fois, ce n'est pas tout à fait clair dans la tête des auditeurs. C'est que dans le Mercosur, il n'y a pas de réduction des normes frontières européennes. C'est-à-dire, l'accord avec le Mercosur, c'est une réduction des droits de douane. Alors, on a discuté, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thomas, c'est quelque chose qui est relativement faible, qui peut être important pour certains produits. Mais bon, voilà, c'est une réduction des droits de douane qui va faire entrer un peu plus de produits sur le marché européen. Par contre, les normes aux frontières vont rester les mêmes. Voilà, il faut être vraiment clair là-dessus. Donc le vrai sujet, c'est le vrai enjeu, c'est effectivement faire en sorte que l'on contrôle ce qui est déjà dans la loi, c'est-à-dire déjà l'interdiction des hormones, l'interdiction de différentes substances, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà.
Et l'Union européenne est armée pour ça.
Voilà, donc tout l'enjeu est là. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du soja. Il faut savoir que l'accord avec le Mercosur ne va pas avoir d'impact sur le commerce de soja, puisque il n'y a déjà pas de droit de douane sur ce produit. Et donc, ça ne va rien changer. Il va y avoir peut-être effectivement de la déforestation liée au fait que la viande qui sera exportée sera produite avec du soja, etc. Mais il ne va pas y avoir d'augmentation des exportations de soja. Donc, pour revenir à votre question, c'est effectivement l'enjeu principal. Peut-on vraiment mettre en place, enfin, peut-on juste contrôler comme il faut à la frontière pour juste vérifier si les produits qui arrivent suivent les normes européennes, comme c'est actuellement le cas. Certaines études montrent qu'il y a certains produits qui arrivent à passer la frontière européenne en ayant des seuils supérieurs à ce qui est autorisé. Et donc tout l'enjeu est dans la traçabilité. Et donc pour répondre à votre question, ça dépend de quoi on parle, c'est-à-dire encore vérifier certaines substances, certains résidus de pesticides, etc. C'est chose qu'on peut faire à la frontière. Par contre, vérifier si ça a généré de la déforestation, si ça a été produit dans les bonnes conditions, avec les normes que l'on demande effectivement aux agriculteurs européens et en particulier français, c'est quelque chose qui me semble extrêmement difficile, puisqu'on ne peut pas aller vérifier toutes les fermes argentines actuellement ou brésiliennes. Donc il y a vraiment cet enjeu de traçabilité, voire d'étiquetage aussi. On pourrait imaginer un système pour voir, pour que les consommateurs puissent savoir exactement d'où viennent les produits, quelle est la traçabilité. Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment juste réussir à contrôler ce qu'on devrait déjà faire, en fait.
Évidemment, évidemment. Alors, il y a une autre mesure peut-être destinée à rassurer notamment les agriculteurs, c'est la clause de sauvegarde, sorte de frein d'urgence en cas d'augmentation soudaine des importations ou d'effets pervers sur le marché. C'est ce qu'avance Bruxelles. Est-ce que ça peut répondre en partie à vos inquiétudes, Jean-Baptiste Gibert?
Après, c'est bien une clause de sauvegarde, sauf que c'est pas quand on a déstabilisé complètement une filière qu'on va... un agriculteur ou... Et d'autant plus un éleveur qui arrête parce qu'il ne s'en sort plus, ne redémarrera pas en reconstituant un cheptel. C'est comme si on tirait le frein à main après avoir tapé l'arbre. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt.
Thomas Utaya-Kumar, vous partagez ce point de vue?
Vous savez, si on prend un exemple très concret, on va prendre la filière bovine allaitante. Ne pas appliquer le Mercosur, ça ne sauvera pas la filière. En fait, la filière bovine allaitante aujourd'hui, c'est un constat qu'on a partagé avec l'interprofession, puisqu'on a sorti une étude là-dessus pour comprendre en fait quel était l'état de santé de la filière bovine allaitante. Elle est très mal en point. On est au bord d'une catastrophe économique et sociale. La filière va pas bien, les abattoirs ferment en cascade. On a de part plusieurs phénomènes, hein, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation de steak haché, le fait que les pièces à forte valeur ajoutée aujourd'hui ne sont pas valorisées. On a un vrai problème sur cette filière-là. Donc, si on veut aider les éleveurs, il va falloir prendre les vrais sujets. Le Mercosur s'en est un, mais c'est une petite partie du problème, notamment sur ces filières. Comme on l'a dit, le Mercosur, c'est on importe des produits qui vont concurrencer de façon déloyale les produits chez nous. Mais si on veut regarder filière par filière, il va falloir dresser un peu le constat de l'état de santé de l'ensemble de ces dernières en France et en Europe. Et sur la filière bovine allaitante, on est aujourd'hui sur de la destruction de valeur. En revanche, si je parle maintenant de la filière laitière, sur la filière laitière, on a regardé la répartition de la valeur, c'est-à-dire comment l'argent se répartit entre tous les acteurs économiques d'une filière. Et sur le secteur laitier, on a un problème. L'argent se concentre dans l'aval, c'est-à-dire les secteurs de l'agroalimentaire et de la distribution qui dégagent des bénéfices nets, plus 61% entre 2018 et 2021, et de l'autre côté, des agriculteurs qui ne gagnent même pas un SMIC horaire. Donc on a un problème sur cette répartition de la valeur. Et donc, si on veut un moment trouver des solutions, il va falloir qu'en fait cet argent soit mieux réparti.
Et comment fait-on pour mieux le répartir?
Et ben aujourd'hui, on entend beaucoup de syndicats majoritaires qui nous disent « on va aider les agriculteurs sur la rémunération ». Mais qu'est-ce qu'on entend? Il va falloir respecter les coûts de production. Mais quelle est la vraie demande, en fait, derrière ça? Qu'est-ce qu'on demande exactement? On a aujourd'hui une loi Egalim qui va être reposée sur la table, c'est la version numéro 4, Egalim 4. Si on veut aujourd'hui respecter le coût de production, quelle est la demande des syndicats majoritaires derrière? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Mercosur, mais le sujet de la rémunération aujourd'hui, c'est quoi? C'est par exemple parler du prix plancher. Qu'est-ce que c'est que le prix plancher? À partir d'un prix plancher, on va pouvoir peut-être négocier davantage avec des contractualisations différentes, peut-être tripartites, entre des distributeurs, des transformateurs et des producteurs, de manière à voir comment on peut rémunérer le travail dignement. Et ça, ça doit passer par des propositions concrètes. Donc moi, aujourd'hui, je pense que les demandes des syndicats majoritaires sont très timides sur ce sujet. Le deuxième, on l'a dit, on veut casser les normes environnementales. Mais j'en parlais aujourd'hui sur France Info, avec un agriculteur qui est lui-même victime, en fait, des conséquences du changement climatique, les sécheresses à répétition, les inondations à répétition, et donc une casse sur la rémunération, puisqu'il y a moins de rendement et donc moins de production. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on est victime, en fait, de ces problématiques environnementales, il faut trouver des solutions. Et ce n'est pas en assouplissant les normes environnementales, comme c'est dit. Assouplir la lourdeur administrative, oui, il y a des choses qui sont beaucoup trop lourdes. Mais de là à aller aussi loin sur les normes environnementales, c'est mentir à la base. Et dans un contexte d'élection fin janvier, avec les élections des chambres d'agriculteurs, il y a beaucoup à gagner, mais il y a aussi beaucoup à perdre pour certains des syndicats majoritaires.
Vous partagez ce point de vue, Charlotte Emlinger?
Non, je partage le point de vue à propos du Mercosur, c'est-à-dire qu'effectivement, on a dit, hein, c'est des volumes qui sont petits, qui représentent quand même peu de la consommation, même si effectivement pour certains produits c'est un peu plus important, produits de haute qualité. Donc finalement, pour moi, c'est ces manifestations qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose, le Mercosur, c'est un symbole un peu fédérateur des agriculteurs et de leur colère. Mais en réalité, le problème, pour moi, n'est pas vraiment le Mercosur. C'est effectivement...
Vous êtes d'accord, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il y a plein de problèmes
pour
derrière.
Pour moi, c'est effectivement plus simple et plus fédérateur de taper sur un accord commercial qui est à Bruxelles, qui est un peu loin, que parler vraiment des problèmes. Et les problèmes, donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est aussi les différences de normes à l'intérieur même de l'Union européenne qui aussi sont vécues difficilement par les agriculteurs. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parfois dans les interviews des agriculteurs, ils parlent des normes, puis après ils parlent, ah oui, la concurrence du Mercosur, puis après la concurrence aussi des Polonais et des Espagnols. Donc ça montre aussi qu'il y a une nécessité quand même de mettre les choses sur la table et que ce n'est pas vraiment une question de commerce international. Et qui ça dépasse complètement ces histoires. Et pour revenir juste sur les procédures de sauvegarde, je pense qu'un des enjeux du Mercosur, s'il est signé et ratifié, ça sera effectivement de bien garantir aux agriculteurs qu'il y aura vraiment une vraie surveillance des marchés. Mais toute la difficulté sera de voir si les difficultés sont liées au commerce international, et je pense qu'elles ne le seront pas. C'est ça la difficulté de cette mise en place des mesures de sauvegarde.
Alors, on va parler avec vous, Jean-Baptiste Gibert, de cette espèce d'union sacrée, entre guillemets, du monde politique français derrière les agriculteurs au sujet du Mercosur. Mais pour autant, les mêmes politiques, que ce soit nationaux ou européens, ne répondent-ils déjà au malaise agricole que vous vivez?
Alors, je vais revenir un peu sur tout ce qui a été dit en préambule. Hein, le syndicalisme, entre guillemets, dit majoritaire, on est quand même force de proposition, et ce depuis plusieurs années. Moi, ça fait quelques temps maintenant, j'étais président de département donc du Tarn-et-Garonne au moment des manifestations de janvier. Clairement, on est arrivé avec un objectif de 140 mesures, hein, au départ. En parlant de revenus, c'est quand même en Occitanie où on a démarré quand même le plus vite et le plus fort, avec une seule idée en tête: retrouver du revenu et pouvoir vivre de notre métier. Cette boussole ne nous a jamais quittés. Ça a toujours été la conviction première, c'est que on peut, quelle que soit la méthode, il faut qu'on retrouve du revenu et qu'on arrive à vivre de notre métier. Parce que on ne peut pas faire 70 heures semaine et être payé 3,50 € de l'heure. J'avais fait ce calcul sur un coin de table chez moi, je me paye 3,50 € de l'heure. Donc, à un moment donné, je peux pas faire ça pendant 10 ans. Et moi, j'ai 38 ans, je vais pas faire toute une carrière comme ça. Et les productions vertueuses ont beaucoup, beaucoup de reprises médiatiques se fait sur le syndicalisme veut lever tous les verrous et faire sauter tout ce qui est soutien aux éco-régimes et compagnie, c'est pas vrai. C'est clairement, ce n'est pas la volonté du syndicalisme de détruire toutes les avancées qui ont fait qu'on a l'agriculture la plus vertueuse au monde, et ce depuis plusieurs années.
Alors que veulent, que cherchent concrètement les syndicats ?
Eh bien, on cherche à vivre de notre métier, comme j'ai dit. On cherche à retrouver des moyens de production, mais sans... On a quand même la conscience environnementale. On est, comme ça a été dit juste avant, on travaille, notre outil de travail, c'est la terre. Donc, c'est, à un moment donné, ça serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas respecter l'environnement. Mais là on part sur deux niveaux complètement différents entre le Brésil et la France, par exemple. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est juste que là, la colère, elle a jamais baissé. Chez nous, en Occitanie, au moins, on a fait une pause parce qu'il a fallu qu'on aille bosser, parce que si on ne va pas travailler, personne ne le fera à notre place. Mais moi, tous les jours, depuis un an, j'ai des adhérents qui appellent et qui disent « Bon, on en est où ? Faut que ça avance. » Et là, c'est arrivé à ce moment-là, le Mercosur a cristallisé un peu l'ensemble de la colère, mais c'est clairement pas le sujet principal.
Mais c'est en tout cas en ce moment la goutte d'eau qui a pu faire déborder le vase. On parle beaucoup de la France et des agriculteurs français, mais ce traité Union européenne-Mercosur, il concerne, comme son nom l'indique, l'Union européenne et les pays du Mercosur. Comment expliquer que la France semble si seule à s'opposer à ce texte ? Comment expliquer que d'autres pays européens, dont l'élevage, l'agriculture occupent une part importante de leur économie, ne soient pas plus vent debout contre cet accord ? On pense notamment, par exemple, à la Roumanie, Charlotte Emlinger.
Donc, comme je disais tout à l'heure, un accord commercial, donc c'est des réductions de droits de douane de part et d'autre, et il y a toujours des secteurs gagnants et des secteurs perdants. Donc, ce qui explique les différences de position des différents pays européens, c'est un peu cet arbitrage qu'il y a toujours entre les secteurs qui sont plutôt offensifs, c'est-à-dire qui pourraient gagner à cet accord, et c'est en particulier donc, les pays très industriels qui sont très offensifs dans le secteur, par exemple, automobile. Il faut savoir que dans le Mercosur, le droit de douane pour les voitures, c'est 35%. Donc vous imaginez passer à zéro, ce que ça peut représenter, mais également pour les producteurs français.
On pense à l'Allemagne, évidemment.
On pense à l'Allemagne, mais on peut aussi penser aux voitures françaises. Donc, en fait, il y a un arbitrage entre tous les secteurs. Donc la chimie, par exemple, aussi 18% de droits de douane, c'est des choses vraiment considérables. Mais en fait, cet arbitrage, il est à l'intérieur aussi de chaque pays, et même à l'intérieur de grands secteurs. C'est-à-dire là, par exemple, le vin. Ou les spiritueux, c'est aussi un secteur pour lequel le Mercosur pourrait avoir un grand impact, parce que les droits de douane de 20%, jusqu'à 35% dans le secteur du vin. Donc voilà, cette différence, elle est liée, voilà, l'Allemagne c'est évident. Après, des pays où il y a aussi une agriculture importante, comme l'Italie, là on a vu que cet après-midi, le ministre de l'agriculture italien a dit que lui, finalement aussi, il était contre l'accord. Alors à voir après, à l'intérieur, avec ses petits camarades de l'industrie, s'il arrivera à se mettre d'accord. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre que tous les accords commerciaux, il y a toujours des gagnants, des perdants. Les études montrent qu'au niveau agricole, les pays sont gagnants. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau du Mercosur, eux sont très inquiets de la concurrence que va faire l'Union européenne sur ces produits, en particulier l'automobile. Hein. Donc, ces positions différentes, elles sont liées essentiellement aux structures économiques, au poids aussi politique de chacun. C'est assez complexe. Et aussi... pour revenir sur les agriculteurs, je pense qu'il y a aussi le fait, comme on disait tout à l'heure, que les normes, en particulier environnementales, sont aussi un peu différentes d'un pays à l'autre. Et donc, les agriculteurs français considèrent aussi qu'on leur en demande beaucoup, peut-être plus que les autres producteurs européens. Et donc, c'est aussi ça qui fait la goutte d'eau.
Thomas Outaya-Kumar, une question, des aménagements, et y a-t-il des aménagements qui pourraient rendre ce texte, ce traité UE-Mercosur, acceptable ?
Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que le gouvernement lui-même s'est posé des lignes rouges. Il en a positionné trois. Un, il faut respecter l'accord de Paris. Deux, il faut lutter contre la déforestation importée. Et aujourd'hui, le règlement sur la déforestation importée, il a été malmené au Parlement, puisqu'il a été reporté à 2025. Et trois, mettre en place des mesures miroirs. Donc en fait, le gouvernement ne peut pas aujourd'hui ratifier l'accord. Ça serait un désaveu monstrueux. Il perdrait la face. Et lorsqu'on a, depuis l'époque de Gabriel Attal et aujourd'hui avec Michel Barnier, notre Premier ministre, et toutes les personnes aux manettes de l'État, si on avait des personnes qui nous disaient « bon, finalement, on va le ratifier », ce serait quand même assez compliqué d'un point de vue de la crédibilité de notre gouvernement. Maintenant, il faut une minorité de blocage. Donc, on peut aussi poser une question au gouvernement. Cette minorité de blocage, elle arriverait si on découpe l'accord, c'est-à-dire on extrait la partie commerciale. C'est ce dont on discute là, tous les trois, tous les quatre. Et là-dessus, sur cette minorité de blocage, est-ce que le gouvernement français et Macron aussi en tête a négocié cette minorité? Est-ce qu'il a travaillé justement à cette diplomatie française auprès des autres pays?
Alors, il faudrait quatre pays, et ça, j'en suis pas sûr. Quatre pays qui pèsent 35% de la population européenne. On paraît loin du compte. Il y a l'Irlande, il y aurait peut-être la Roumanie, mais c'est des pays qui ne sont pas fondamentalement contre ce projet d'accord UE-Mercosur.
Oui, effectivement, il y a l'Autriche aussi, donc c'est plutôt des petits pays. Et effectivement, ça fait pour l'instant, on est loin du compte, donc faut voir. Encore une fois, je pense qu'on a vu cet après-midi avec l'Italie, montre que les positions peuvent peut-être un peu changer. Donc, On attend de voir. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les différents pays européens et à l'intérieur de chaque pays, il y a un équilibre entre secteurs.
Et vous parliez d'aspects désuets hein, de cet accord de libre-échange. Est-ce que quand on voit le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui veut remettre du protectionnisme à ses frontières, l'Union européenne doit-elle mettre en place une politique commerciale protectionniste à son tour et complètement arrêter avec les traités de libre-échange? Thomas Utayakumar.
Sur les enjeux de protectionnisme, oui, on parle un peu clairement de ça. Après, l'idée, c'est qu'on ne peut pas continuer à exporter certains biens et à fermer totalement nos frontières à certains produits. Donc l'idée, c'est de comprendre dans quelle mesure les produits importés peuvent respecter nos normes sociales et environnementales, et c'est bien de ça dont il s'agit.
Chercher un juste milieu.
Chercher le juste milieu, c'est par exemple l'enjeu des mesures miroirs qui ne va pas tout résoudre. Mais au moins, les mesures miroirs ont la vertu de discuter sur un terrain d'équité, c'est-à-dire entre ce qui peut être produit par l'Europe et ce qui est importé. Et ce jeu d'équité sociale et environnementale, il est fondamental. Je rajouterai juste une chose. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des ambitions environnementales de la France et même de l'Europe, on va parler par exemple des pesticides. Aujourd'hui, les agriculteurs, et je pense que celui aussi qui est avec nous aujourd'hui pour discuter du Mercosur, nous dira que les pesticides ne sont pas utilisés par gaieté de cœur par les agriculteurs. À partir de là, si on dit ça, ça veut dire qu'on se donne une trajectoire d'éviction des pesticides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle que soit la date, on va les supprimer. Si on les supprime, il faut qu'on ait un discours clair aussi des syndicats majoritaires, notamment ceux qui prennent la parole dans les médias, pour nous dire « oui, les pesticides, ce sera terminé, les pesticides de synthèse, à telle échéance, et on va s'en donner les moyens ». Pour s'en donner les moyens, on a aujourd'hui beaucoup d'argent sur la table, on a des milliards d'euros d'argent de la politique agricole commune, mais aussi d'exonération fiscale et sociale. Et on a aussi des aides d'urgence. Et cet argent-là, on peut le flécher différemment vers l'agroécologie pour justement atteindre ces objectifs. Et vraiment, je pense que les syndicats devraient parler là-dessus et ils sont très attendus, je pense, par la base.
Un dernier mot, Charlotte Emlinger.
Oui, ben justement, je voulais revenir un peu à votre question. Puis, initiale, moi, je ne pense pas que ça soit un accord désuet. Parce que justement, quand il était négocié au départ, c'était plutôt pour des raisons économiques. Mmh. Mais maintenant, en 2024, on est dans un monde très différent. Vous avez parlé de Trump, vous avez parlé de la relation avec la Chine. Et justement, la signature d'un accord se place dans cette géopolitique.
D'abord, si l'Europe n'y va pas, la Chine va y aller à notre place.
Exactement. D'abord, il y a ça, déjà. C'est contrer l'influence de la Chine dans ces pays-là. C'est justement dans un monde où peut-être que voilà, nos relations avec les Américains vont être plus compliquées. Elles sont déjà bien compliquées avec les Russes et la Chine. Peut-être qu'avoir des amis sur la place internationale, ça serait pas mal. Surtout des amis qui ont des produits stratégiques comme le cuivre et le lithium. Donc c'est juste pour donner un peu de perspective. On a parlé bovins, etc. Mais il ne faut pas oublier ces questions aussi géopolitiques qui sont essentielles.
C'est plus large que ça. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Charlotte Emlinger. Merci Thomas Utayakumar. Merci Jean-Baptiste Gibert d'avoir accepté notre invitation. C'était le débat du jour sur RFI. Un nouveau journal dans un peu plus d'une minute sur la Radio du Monde. Et puis dans un peu plus d'une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Afrique Soir avec vous, Charlotte de Romain. Bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir à tous et à tous. Dans une demi-heure, nous serons au Sénégal où le pari semble en passe d'être gagné pour le président Bassirou Diomaye Faye. Le parti présidentiel serait en passe d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer son programme de justice sociale. La presse sénégalaise parle de déferlante. Au Bénin, l'ouverture aujourd'hui d'un procès contre un cyberactiviste, Steve Amoussou, accusé d'être derrière les pamphlets audio contre Patrice Talon. des ministres et des hauts gradés de la police. Au Niger, les enseignants sont en grève jusqu'à demain soir. Ils demandent le recrutement de contractuels et le paiement de rappels de salaire. Et puis on reviendra aussi dans Afrique Soir sur cet accord entre les autorités françaises et ivoiriennes pour le retour du tambour-parleur, pièce pillée dans la